Ce soir, j'aimerais véritablement prendre le temps d'analyser cette pensée « Christ est mort pour nous ». Quand on entend cela, on pourrait voir ça comme quelque chose d'un autre temps, comme quelque chose qui finalement est tellement fait partie de l'histoire, qui ne nous touche plus. Aujourd'hui, si on devait parler de n'importe quel personnage de l'histoire, on dirait « Ok, c'est du passé, ça ne nous touche plus, ça ne peut plus rien changer ». Par contre, Jésus, lui, continue de changer, pas seulement le présent, mais aussi l'avenir de tous ceux et celles qui prennent conscience du sacrifice que Christ a fait pour chaque être humain. Dans le psaume 68, le verset 21, il est écrit ceci « Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut, à l'Éternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. » Je lisais ce texte ce matin en préparant ce message. Je me disais, Seigneur, combien de fois on a pu être confronté à la situation de la mort ? Ou quelqu'un qui est en fin de vie, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quelqu'un m'a appelé parce que son conjoint était en situation de souffrance à l'hôpital en réanimation. Et là, devant moi, il y avait une personne qui ne pouvait pas répondre. Elle était dans un état de coma profond et donc à quelque part il n'y avait rien qui était possible si ce n'est de prier pour lui. Et quand on est face à une situation pareille, bien évidemment on se sent tout petit. Et on se sent incapable de pouvoir trouver une solution humainement. On ne peut pas secouer la personne, on ne peut pas faire quoi que ce soit si ce n'est de dire « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on dit « Seigneur, c'est toi celui qui a le droit sur la vie et la mort, c'est toi qui as autorité pour relever le malade, c'est toi Seigneur, et dans ton sang Seigneur, et par le sacrifice que tu as accompli Seigneur, que ce cœur, que cette âme, que cette vie Seigneur puisse trouver en toi le secours nécessaire. » Une semaine plus tard, cet homme sortait du coma. Mais tout n'était pas réglé. Vendredi dernier, j'ai dû me rendre à nouveau à l'hôpital. Son épouse était triste et en colère parce que son mari n'arrivait plus à supporter le tuyau qui lui apportait de l'oxygène et il voulait l'arracher. Et les médecins qui essayaient de le calmer en lui disant « Monsieur, si vous faites ça, on ne peut plus rien faire pour vous. » Et encore une fois, j'ai dit « Vous savez, le Seigneur peut vous aider à supporter. » Lui, il a bien supporté des choses pour nous à la croix. Et on a prié, tout à nouveau. Et cet après-midi, je reçois un coup de téléphone de l'épouse qui me dit finalement, ils ont enlevé le tuyau. Et il a repris à respirer normalement. Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Et le texte que nous venons de partager dit, c'est Dieu, ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. Ah, l'Éternel, le Seigneur, le moyen de nous sortir de la mort. Dans Romains chapitre 5, les versets 6 à 11, il nous est dit ceci, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Quelle œuvre merveilleuse, quelle œuvre de salut, quelle œuvre de grâce que Christ a accomplie, et non pas pour des personnes qui étaient prêtes à le suivre, non pas pour des personnes qui avaient déjà fait le pas de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais par des hommes et des femmes finalement qui ne voulaient rien entendre de Dieu. C'était mon cas. Rien entendre de ce que Dieu avait pu faire. Quelque part, certains encore aujourd'hui ont des doutes sur le fait que Dieu existe. Ils se disent, mais si Dieu existait, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Finalement, c'est presque si nous, on voulait être à la place de Dieu. Et bien souvent, les hommes se prennent pour être ceux qui sont à la place de Dieu. Mais si on prenait un temps pour voir un peu tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous et qu'on commençait finalement à nous rendre compte que ce n'est pas à lui encore de nous prouver son amour, puisque la parole de Dieu nous l'a dit, il l'a fait à la croix, puisqu'il a accompli pour nous une œuvre de réconciliation, puisqu'il a œuvré pour que nous puissions finalement avoir la vie sauve, la vie spirituelle, la vie en Christ, la vie éternelle. Alors où nous en sommes ? Où se retrouve notre cœur ? Pourquoi Christ est mort pour nous ? Alors la parole de Dieu nous donne quelques éléments et j'aimerais le partager avec vous ce soir. Et la parole de Dieu dit que Christ est mort pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Quelle grâce ! Tite chapitre 2 versets 11 à 14, il nous est dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'empiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Et regardez encore cette phrase, ce texte, ce verset. « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé ou les œuvres bonnes. » Il s'est donné lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu les histoires des combats, de la guerre ou de l'histoire. Il nous raconte que finalement, ceux qui étaient responsables du combat se tenaient sur les parties hautes, hein, sur les montagnes, sur les collines, et de loin, ils regardaient et disaient « Allez au combat !» C'est facile, hein. Eux étaient bien au couvert, protégés, et disaient aux autres, « Allez-y, c'est maintenant, il faut y aller, courage, soyez forts. » Lorsque sa propre vie n'est pas mise en danger, c'est facile de dire aux autres, mais Jésus n'a pas envoyé les autres, c'est lui-même qui est allé. C'est lui-même qui a fait le pas, c'est lui-même qui est allé au combat, c'est lui-même qui est allé à la croix. Et la parole de Dieu, il nous dit qu'il a fait ça pour nous racheter de nos iniquités, nos péchés, nos erreurs, nos fautes, mais aussi afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il dira « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Il a payé un prix qu'on n'aurait pas pu payer. Pourquoi ? Parce que, étant déjà fautif, comment pouvait payer la faute qui était la nôtre ? On aimerait pouvoir, dans notre vie, essayer de nous racheter. Alors on le fait peut-être par les bonnes œuvres. Mais malgré qu'on essaie de faire des bonnes œuvres, combien de péchés s'ajoutent à notre vie tous les jours ? Combien de choses nous pouvons faire de travers tous les jours ? Combien de fois, finalement, nous continuons à alourdir notre fardeau ? Si on avait l'occasion de voir, imaginez juste cette scène, un moyen de mesurer le bien que nous faisons et le mal que nous faisons et voir si à un moment ou à un autre, on arrivait à rejoindre un minimum d'équilibre, je crois qu'on serait déjà heureux. Et des fois, quand on a fait une bonne chose, on est tout fier, on est tout heureux, on rentre à la maison, on a gagné. Mais on oublie que le fardeau est tellement lourd que ce qu'on a pu faire comme bonne œuvre, même si c'est bien de le faire, bien évidemment, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans un fleuve immense. Ça ne changera pas grand-chose parce que finalement, on ne peut pas régler le problème d'un coup. La parole de Dieu nous dit aussi que Christ est mort afin de nous arraché au présent siècle mauvais. Galates chapitre 1, les versets 3 et 4, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Le siècle que nous vivons aujourd'hui est mauvais, hein. Si vous n'en êtes pas convaincu, il vous suffit juste de regarder un moment le journal télé, vous verrez, c'est mauvais. Hein. Et je dirais même très, très mauvais. C'est horrible, le monde dans lequel nous vivons, où finalement l'injustice règne, la méchanceté est là, la violence, c'est le quotidien. Et finalement, les personnes qui veulent vivre dignement, justement, elles se trouvent à être finalement presque isolées et regardées comme des extraterrestres. N'est-ce pas ? Ah, tu fais pas ça. Oh ben, c'est pour ça que tu as des problèmes. Ah non, eh, il faut tricher. Sans tricher, tu n'arriveras à rien. Sans finalement marcher sur les autres, tu n'auras pas la bonne place que tu veux. Sans finalement dénigrer les autres, mais les autres y passeront toujours devant toi. C'est ça que le monde enseigne. C'est ça qu'on a pu peut-être entendre nous-mêmes, et peut-être qu'on l'a même fait. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu nous arracher au siècle présent. Être arraché, ça veut dire qu'on est tellement attaché à certaines choses qu'on a besoin de vivre un détachement, une déchirure. Ah, il y a des choses qu'on voudrait tout de suite se détacher. Imaginez de pouvoir vous détacher de vos impôts. Qui dit oui? C'est vite fait, hein? Direct, pas de souci, hein? Allez, si on pouvait déchirer l'amende, hein? Si on pouvait déchirer la facture à payer, en se disant, ok, ni vu, ni connu, c'est réglé. Mais le Seigneur nous dit qu'il veut nous déchirer, finalement, nous arracher au monde présent, sur lequel bien des choses nous sommes attachés nous-mêmes. Parce que c'est notre nature qui nous y attache. C'est notre manière d'être qui fait qu'à certains moments, on est collé à certains moyens, certaines manières de faire. Et cela, on s'y attachait de plus jeune âge. Et on a besoin que le Seigneur nous aide à nous détacher parce que tout seul, on ne peut pas. J'ai toujours donné cette image parce qu'elle m'a parlé un jour en faisant une visite. Je suis arrivé chez quelqu'un et elle avait ces petits boîtiers au plafond avec une espèce de papier collant, vous savez, pour les mouches. Quelle belle décoration. Et l'idée, c'est que finalement, sur ce papier, il y a un produit qui attire. Et une fois que la mouche se pose, elle ne peut plus se décoller. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Il émane quelque chose qui attire. Finalement, on ne voit que ça, on n'a envie que ça. Pourquoi? Parce que c'est notre nature qui est pécheresse. On n'est pas attiré par les mauvaises choses. Je suis sûr, ce soir, si je mettais une boîte de chocolat, fin de réunion, il y en aurait plus. Je ne vais pas faire l'essai parce que je ne veux pas que vous puissiez être troublé dans votre diabète. Je prends soin de vous. Mais la réalité fait qu'il y a des choses qui nous attirent et on a du mal à résister. On a des habitudes, on a des choses qui font partie de notre vie au quotidien. Et le Seigneur nous dit qu'il est venu nous arracher à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont mauvaises pour nous. Lorsque le médecin vous dit que quelque chose n'est pas bon pour votre santé, alors pour certains, ok, d'accord, j'accepte. Mais pour d'autres, ah comme c'est compliqué, ah comme c'est difficile de ne pas prendre ça. On fait le tour, on fait le détour, on part, on revient. Ah, il dit, ben, je le mange, sans regarder. Hein? Et après on se dit, ben, au moins une fois par semaine, au moins une fois par semaine. Et après finalement, on reprend goût et on a du mal à arrêter. On a du mal à lâcher. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est venu afin de nous arracher au siècle mauvais. Ça veut dire que ce siècle, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour vous. Il est venu afin que nous recevions l'adoption. Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Finalement, du moment qu'on est détaché du monde, on a besoin de trouver une autre manière de vivre, une autre réalité. On a besoin de vivre quelque chose qui nous permet finalement de ne pas retomber dans les anciennes coutumes. Ne pas retomber dans les anciens péchés, ne pas retomber dans les anciennes traditions, parce que toutes ces choses-là, finalement, elles font partie de nous-mêmes. On a besoin que Dieu nous aide à prendre pour nous cette nouvelle adoption. Choisir de changer entre un mauvais père, Satan, et un père qui nous aime, Dieu. Entre celui qui a tout fait pour détruire et celui qui fait tout pour nous reconstruire. Entre celui qui a tout fait pour finalement nous faire souffrir et celui qui a tout souffert pour nous faire vivre bien. Et là, le choix devrait nous revenir et le choix nous revient puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais encore, il nous faut choisir. Et si je lis tous ces textes, c'est parce que je me rends compte que finalement, Dieu a tout mis en œuvre. Mais je dois, moi, prendre et faire le choix de dire, Seigneur, tu es mort pour moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Vous savez, seule la mort de Jésus-Christ peut nous sauver. Actes chapitre 4, verset 12. « Idéra, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Un seul nom, un seul moyen. Imaginez de vous retrouver dans un endroit où il y a des serpents. Vous aimez ça? Moi non plus. Et finalement, un serpent vous mord. Et on vous dit, il y a un seul vaccin possible. Il y a un seul moyen de régler le problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez ou vous y réfléchissez? Vous dites, bon, moi, les aiguilles, j'aime pas ça. Le serpent, il m'a déjà mordu, donc c'est fait, je ne peux plus refaire rien. Mais une piqûre de plus, sincèrement. Hein? Vous aimez les piqûres? Je vous rassure, moi non plus. Mais, entre le choix de vivre et mourir, qu'est-ce que vous choisissez? Et lorsque la parole de Dieu nous dit que le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus, on devrait faire un choix rapide sans même pas perdre de temps et dire, Seigneur, c'est maintenant que j'ai besoin que tu interviennes. Parce que plus je perds de temps, plus le venin, il se répand dans mon corps et finalement, je risque de ne plus avoir le temps. Vous avez déjà vu ces petits sabliers? Hein? On les tourne, c'est sympa, hein? C'est joli, on regarde et le temps passe. Le temps passe tous les jours. Chaque instant, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Avant, on était jeune et enfant. Et là, après, on se retrouve finalement 18 ans, permis de conduire, c'est magnifique. Et après les 18 ans, wow, ça va vite. On essaye d'arrêter le temps. Pour certains, ça s'arrête à 35 ans. Même s'ils en ont 75, c'est 35. Non? Pourquoi? Parce qu'on voudrait arrêter le temps. On voudrait empêcher le temps d'avancer. Mais le temps avance, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et il arrive le moment où nous avons un rendez-vous que personne ne pourra annuler. C'est le moment où nous allons nous retrouver devant Dieu. Et là, notre choix, c'est celui qui va déterminer la suite. Et si je n'ai pas fait le bon choix, et si je n'ai pas accepté Jésus, le seul nom par lequel je pouvais être sauvé, qu'est-ce qui me reste? Rien, le vide. Alors Christ est mort, dit la parole de Dieu, et 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6, il nous dit pour qui est mort. Alors est-ce qu'il est mort pour les plus beaux? Est-ce qu'il est mort pour les plus riches? Est-ce qu'il est mort pour ceux qui sont les plus intelligents? Ah. Donc je ne peux pas chercher d'excuses devant le fait que Dieu soit mort pour moi. Moi, je n'ai pas d'excuses pour dire non. Mais je devrais dire oui, Seigneur, merci. Merci parce qu'on a toujours tendance à chercher des excuses pour dire je n'accepte pas Dieu aujourd'hui. Je le ferai demain. Demain, c'est un autre jour, c'est bien demain. Hein? Et demain, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est un peu trop tôt, c'est mieux après-demain, je suis jeune encore, je veux profiter. Mais vous savez très bien que tout peut changer, tout peut basculer d'un instant à un autre. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, nous ne sommes pas maîtres de notre avenir, si ce n'est de choisir le Seigneur. Le texte de 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 6 dira « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. » Il y a un seul moyen. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, si je commence à faire un peu une liste de tout ce que nous avons lu, je me rends compte que je ne peux pas affirmer que Dieu n'a rien fait. Loin de là. Je ne peux pas affirmer que Dieu n'a pas vu la peine, la difficulté que les hommes peuvent vivre jour après jour. Je ne peux pas dire que Dieu ne voit pas que le monde part finalement très mal. Puisqu'il me dit qu'il veut m'arracher à ce monde qui est mauvais. Et ce monde, s'il est devenu mauvais, c'est à cause des hommes, ce n'est pas à cause de Dieu. Chacun d'entre nous, nous faisons tous les jours, je vous assure, tous les jours on fait des erreurs, tous les jours. On a beau faire ce qu'on veut, on ne sera pas parfait. Si vous croyez être parfait, j'ai une info pour vous. Ce n'est pas vrai, arrêtez de vous mentir. Hein ? La vérité, c'est qu'on a des défauts. On a des points sur lesquels on a besoin du secours de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé son Fils, notre Sauveur, pour que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui finalement nous permet de faire la différence entre peut-être ce que nous vivons et la réalité. Je me suis posé la question un jour, j'étais à côté de quelqu'un à qui le médecin venait d'annoncer qu'il ne lui restait pas grand-chose à vivre. Et je me suis dit, si ça devait m'arriver à moi, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je préfère le savoir ou pas le savoir ? Drôle de question que je me pose. Hein ? Heureusement, vous ne vous posez pas ce genre de questions. Hein ? Et si je devais savoir qu'il me restait peu de temps, qu'est-ce que je vais faire ? Chercher Dieu, oui, d'accord. Mais je pense qu'on essaierait. Alors je me suis dit, certainement, je vais essayer d'aller revoir mes enfants. Non ? Et si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas bien envers mes enfants, lui dire, écoute, mon fils, ma fille, pardonne-moi. Non ? Et peut-être de voir ceux qui sont autour de moi et me dire, ben, finalement, on s'est pris la tête pour pas grand-chose. On a perdu du temps dans notre vie pour pas grand-chose. On a eu des luttes, des combats, des conflits, alors que finalement, tout va s'arrêter là. Et on aurait pu vivre ça autrement. On aurait pu faire autrement. Et cependant, le temps qui m'a été communiqué passe, non ? Alors je me dis, bon, le temps qui me reste, allez, je vais me faire plaisir, un bon resto. Ah ben, non ? Aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et après, mais finalement, toutes ces choses-là. Si je n'allais pas à l'essentiel en disant, Seigneur, mais le temps qui me reste, je veux m'assurer que l'éternité, c'est ce qui m'attend, dans le bon endroit. Je ne veux pas perdre le temps, je ne veux pas perdre finalement la seule occasion qui peut-être me reste, de faire le bon choix et de m'approcher de toi. Jésus, par son obéissance, par son sacrifice à la croix, il a manifesté aux hommes la puissance du Sauveur. Dieu, notre Sauveur, nous l'avons lu dans notre texte. Il a montré le plan du salut, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il y est allé avec un plan bien précis. Il ne s'est pas inventé une méthode en disant, bon, on verra, peut-être s'il y a 50%, c'est déjà pas mal. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous allez dire, mais même les plus méchants, tous. Mais il faut quitter sa méchanceté. Ce n'est pas en restant méchant qu'on peut être sauvé. Hein. Ce n'est pas en restant dans le péché qu'on peut se dire, ben Dieu, il voit que je ne suis pas si pécheur que ça, parce que regarde là-bas au fond, il y en a un, et lui, oula, hein. Je ne peux pas faire cette comparaison. Je ne peux pas commencer à juger le péché des autres moins grave que le mien, parce que la parole de Dieu me dit que les menteurs, écoutez-moi, les menteurs ne rentreront point dans le royaume des cieux. Qui a déjà menti ? Une seule fois, hein ? Oui, on peut exagérer, on peut réduire. C'est comme la sardine qui a bloqué le port de Marseille. Hein, c'est un peu comme ça, mais c'est des coutumes. Et certains vous diront que mentir pour ne pas faire souffrir, c'est bien. Mais un mensonge, ça reste un mensonge. Et la parole de Dieu me dit que les menteurs ne rentreront point dans le royaume des cieux. J'ai besoin de régler ce problème et j'ai besoin que la vérité fasse, que le mensonge ne fasse plus part de ma vie. Et cette vérité, elle n'est pas en moi, elle doit venir de celui qui est la vérité. Et Dieu est vérité. Et cette vérité, elle va me mettre face à mes responsabilités. Et dans mes responsabilités, je vais devoir dire à la personne, je t'ai menti, je n'ai pas été vrai, je n'ai pas été juste. Alors ça, c'est difficile, parce que ça nous amène à nous humilier. Mais devant le Seigneur, j'ai besoin de m'humilier. J'ai besoin de dire, Seigneur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes, Seigneur. S'il n'y avait que le mensonge dans ma vie, Seigneur. Mais combien d'autres péchés j'ai pu commettre? Et Seigneur, je ne veux plus qu'il fasse partie de ma vie. Seigneur, ton plan de salut, il est parfait. Je vois aussi l'action du Sauveur, parce qu'il n'a pas juste dit, mais il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a agi. Et encore ce soir, il veut agir pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, il continue d'œuvrer. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas et qu'il ne fait rien. Il le fait 24 heures sur 24, mais moi, je refuse de le voir, peut-être par manque de vérité en moi-même, par manque de réalité. Et la parole de Dieu, il dit qu'il a pris une position. Il s'est placé entre Dieu et les hommes. C'est lui qui s'est placé là pour dire, « Père, j'ai payé le prix. Je l'ai pardonné. » Et en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons un accès auprès du Père. Il y a un texte, tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a lu. C'est ce moment où Jésus se trouve à la croix avec deux brigands. Quelle mort indigne, non ? Parce qu'en faisant ça, ils étaient en train de dire finalement que Jésus n'était que un brigand parmi les brigands. Alors qu'il n'a jamais tué personne, il n'a jamais volé personne, il n'a jamais fait de choses qui méritaient une punition quelconque et encore moins la mort. Mais là, on l'accuse. Mais par sa position qui est celle d'être fils de Dieu, juste, vrai, saint, il peut offrir à un des deux brigands qui accepte et reconnaît ses fautes la vie éternelle. Un sauvé en extremis, sauvé en dernier moment. Eh bien, Dieu soit béni parce qu'il lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. » Aujourd'hui même, tu n'as pas à passer toute une phase. Non, aujourd'hui même, parce que le temps est court. Et notre temps est court. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui avait un doute sur Dieu et à ceux qui pensent que Dieu n'a rien fait pour changer le monde, méditez et réalisez que lui, il a tout accompli. Et vous, êtes prêts à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous, toi, moi, c'est un choix qui nous revient. Moi, j'aimerais pouvoir choisir pour mes enfants. On a pu le faire tant qu'ils étaient petits. On choisissait comment les habiller, on choisissait comment les chausser, on choisissait ce qu'ils devaient manger, non ? Mais il y a un moment, après, ils nous ont dit, ah non, non, stop, je choisis. Et quand ils sont grands, vous ne choisissez plus rien. Vous êtes obligé de dire, ok, même si je ne suis pas d'accord, c'est ton choix. Eh bien, Dieu nous traite comme des adultes. Et il nous dit, c'est ton choix. C'est ta décision. Et si après ce que tout ce que le Seigneur a fait continue de faire, tu ne prends pas la bonne décision, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mais si ce soir tu fais le choix de dire Seigneur, je veux changer de vie. Et je te voudrais t'encourager parce que parfois, vous savez, on dit, moi j'irai au Seigneur le jour où j'aurai arrêté telle ou telle ou telle ou telle chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Le Seigneur te dit, viens à moi et moi je t'aiderai à arrêter telle ou telle ou telle ou telle chose. Ce n'est pas toi qui dois faire les choses comme si finalement tu n'avais pas besoin de Dieu. Dieu n'attend pas un produit fini. Dieu, il t'attend comme tu es. Et après, lui s'occupe de faire les changements. Et ces changements, il les fait avec amour, avec patience, avec bonté, avec fidélité. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Et si ce soir quelqu'un voulait saisir l'occasion de dire, Seigneur, je reconnais que jusque-là, je n'ai pas forcément posé mon regard dans la bonne direction. J'ai regardé au monde qui est perdu, au lieu de regarder à celui qui essayait de m'arracher à ce monde perdu. J'ai regardé à la méchanceté, au lieu de regarder à celui qui a tout fait pour me montrer l'amour, la miséricorde, la grâce. J'ai regardé à ceux qui continuaient à faire du tort au lieu de regarder à celui qui a payé pour mes torts, pour mes erreurs. pour mes péchés. Seigneur, ce soir, je voudrais te prier encore d'être celui qui vient au secours des hommes et des femmes que nous sommes. Celui qui a accompli l'œuvre à la croix et prêt encore ce soir à accomplir une œuvre dans notre cœur, dans le tien, dans le mien. Et pour cela, il te faut juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le dans ton cœur, reconnais que tu as besoin de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et dès cet instant, le Seigneur est prêt à rentrer dans ton cœur. Si tu es prêt à arrêter de vivre dans le péché, si tu es prêt à renoncer à tes péchés, à renoncer à ta vie dissolue et à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Et si tel est ton choix, sache que le choix de Dieu est celui de venir changer ta vie. Le choix de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes son enfant et que tu sois sauvé une fois pour toutes par sa grâce, pardonné une fois pour toutes par sa miséricorde, justifié une fois pour toutes par le sacrifice accompli par Christ à la croix. Pardonné et accepté autant qu'enfant de Dieu. Seigneur, merci pour la bonté dont tu fais preuve, Seigneur, envers chacun de nous. Tu n'as pas attendu que nous soyons prêts et parfaits, mais tu as donné avant tout ta vie pour que nous puissions regarder à toi et inspirer aux choses les meilleures. Désirer, Seigneur, de devenir tes enfants. Et encore ce soir, Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui encore ce soir ont dit oui à Jésus-Christ. Bénis-les, remplis-les de ta paix. Fais-leur sentir, Seigneur, la joie qui donne le salut. Fais-leur sentir ta présence dans leur cœur et que le Saint-Esprit les touche, les baptise, les renouvelle, les transforme. Que ce soit l'œuvre de Dieu dans leur cœur et qu'à toi en revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.